Radio Okapi. Grande interview.
Mesdames et messieurs fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro le professeur Jacques Joly, député national et co-auteur de la proposition de loi électorale. Ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Jacques Joly nous parle du processus électoral en cours et des conditions préalables pour assurer la tenue des élections libres, transparentes et apaisées dont les résultats reflèteront la vérité des urnes. Produite sous la supervision de Alain Irung, cette émission vous est coordonnée et présentée par Michel Kifindangor. Merci de rester à l'écoute. Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifinda.
Alors, le bureau et la plénière de la CENI ont été non seulement entérinés, mais aussi investis par le président de la République. Mais seulement, le contexte de cet entérinement était émaillé de manque de consensus. Quelles sont les étapes à franchir aujourd'hui pour arriver à la tenue des élections crédibles et transparentes en 2023?
Les élections crédibles, transparentes en 2023, c'est une attente globale. Vous savez que notre pays a pour identité ou se nomme une République démocratique du Congo. C'est que au cœur du système d'accès au pouvoir, c'est le peuple qui se prononce par voie de élections qui doivent se tenir régulièrement de manière honnête. C'est un principe qui découle d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui met la source du pouvoir dans le peuple. Le pouvoir appartient donc au peuple qui s'exprime par des élections. Et notre constitution dit à l'article 5 que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie de élections ou indirectement par ses représentants. D'ailleurs, cette même constitution dit que la cause du problème que nous avons dans notre pays depuis 1960, c'est une crise de légitimité des institutions et de ses animateurs. Donc pour sortir de cette crise qui nous tenaille depuis plusieurs années, il faut aller vers de bonnes élections, des élections libres, des élections transparentes, des élections pluralistes, des élections crédibles. Donc, ceci étant dit, nous avons déjà eu 3 cycles électoraux. Le premier cycle, c'était en 2006. C'était le cycle d'apprentissage. Nous avons eu un deuxième cycle en 2011. C'était le cycle d'appropriation. Et en 2018, nous avons eu le cycle qui nous a donné ce qu'on peut appeler l'alternance. Mais si on peut se féliciter de la répétition de l'exercice, il resterait qu'il y a beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes majeurs, c'est les déficits des consensus que nous avons à construire un système électoral qui puisse satisfaire tout le monde. Mais comme vous l'avez dit, malgré toutes ces difficultés, aujourd'hui nous avons une CENI. Au terme de la loi organique, il appartient maintenant à cette équipe de présenter son programme au gouvernement pour dire exactement comment cette équipe va conduire le prochain processus électoral. Mais tout ce que nous pouvons dire, si nous voulons avoir un processus apaisé, il faut que ce soit un processus électoral partagé. C'est-à-dire, on ne conduit pas un processus électoral de manière totalement verticale. Il faut que toutes les parties prenantes participent à la définition des objectifs, de procédures et des toutes les étapes. C'est la condition première pour qu'il y ait un processus apaisé et des résultats acceptés.
Au niveau du Parlement, quelles sont les grandes étapes électorales cruciales qui restent à être réalisées, d'abord au niveau du Parlement et puis au niveau de la CENI pour qu'enfin les élections aient lieu?
Mais au niveau du Parlement d'abord, nous avons la mission de produire les lois et d'assurer aussi les contrôles d'un certain nombre de paramètres qui entrent, n'est-ce pas, à ligne de compte pour un processus électoral crédible. Au niveau de la loi d'abord, la priorité aujourd'hui c'est la loi électorale. Il y a même des auteurs qui considèrent la loi électorale comme faisant partie du bloc de constitutionnalité, parce que la loi électorale c'est la loi qui fixe les conditions des naissances du pouvoir politique. Donc c'est une loi importante qui doit faire aussi l'objet, je crois, de larges discussions au sein du Parlement pour que nous puissions, de manière sereine et objective, vider tous les problèmes qui se sont posés dans les cycles antérieurs. La question, par exemple, de l'enrôlement, il faut que cette question soit clarifiée pour que nous évitions une cartographie électorale des enrôlements qui soit inégalitaire. Il faut donc bien définir les conditions. Est-ce que nous allons aller au recensement? Est-ce que nous allons aller tout simplement à l'identification des électeurs, des électeurs?
Nous allons y arriver, professeur.
Ça, c'est une question transversale ou peut-être qui sera, n'est-ce pas, à résoudre au niveau de la CEDI. Mais au niveau de l'Assemblée, c'est d'abord la loi électorale. Les conditions pour être candidat. Il y a un problème qui s'est posé de l'inclusivité. La loi électorale a toujours été utilisée dans beaucoup de pays africains pour exclure des candidats. Il faut que nous puissions débattre ça à tête reposée pour que nous n'ayons pas des problèmes d'exclusion déjà dans la loi électorale. Il y a la question de seuil et même de mode de scrutin. Quels les types de scrutin que nous allons prendre?
Professeur, nous allons revenir sur ça en détail.
Oui, d'accord.
Mais avant tout, est-ce que vous pensez que la loi électorale pourrait se présenter comme une opportunité de répondre aux revendications de ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans le processus, puisqu'elle est mécontente de l'équipe de la CENI?
Oui, la loi électorale est un des éléments clés de la structuration d'un système électoral. On ne s'est pas entendu sur l'organe de gestion, mais il est là. Il y a aussi des opportunités pour arranger la présence de l'opposition. Elle va assumer le rôle de deuxième vice-président de cette assemblée plénière, donc du bureau de la CENI. Elle va assumer le rôle, l'opposition, des questeurs. Et elle aura deux membres, n'est-ce pas, dans la plénière. Je crois que c'est quatre membres. Et si nous prenons les cinq membres de la société civile, ça fait déjà plus ou moins neuf. Si on a peur de la majorité, ils sont déjà plus ou moins à neuf. Et je sais que les membres de la société civile qui sont là, ce sont des acteurs de première force, n'est-ce pas, en matière électorale. Donc, monsieur Denis Kadima, c'est quelqu'un qui est habitué aux processus électoraux. Nous espérons qu'il va mener son expérience. Donc, si nous mettons une parenthèse, mais une parenthèse qui n'est pas fermée, parce que, au-delà de la composition, il y a, comme vous avez dit, la loi électorale. Nous allons résoudre énormément de problèmes dans la loi électorale. Les problèmes, je vous dis, de l'inclusivité au niveau des candidatures, de la gestion des résultats électoraux, de ce qu'on appelle la chaîne des résultats. Comment on va arriver d'abord à assurer une cartographie de bureaux de vote de manière équitable? Comment assurer la transmission des résultats de manière transparente? Aujourd'hui, on discute toujours sur les résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais on dira des résultats bureau de vote par bureau de vote, la chaîne de résultats doit être transparente. Du bureau de vote jusqu'au Centre national des traitements, on doit savoir la vérité des urnes, c'est-à-dire qui a voté où et il a voté comment, en respectant derrière le secret du vote. Et la question donc de l'observabilité. Il est hors de question, comme on a eu d'autres fois, où on dit nous voulons pas des étrangers. Non, une élection doit être observée aussi bien par des observateurs nationaux et internationaux. La question de la liberté d'expression, des droits d'accès aux médias, du contentieux électoral. Là aussi, le rôle du juge doit être redéfini. Les questions de la démonstration de la preuve. Vous savez qu'aujourd'hui, on demande à un candidat président de donner le preuve de son élection, lui, dans le 48 heures, alors que c'est la CENI qui doit envoyer tous les PV aux juridictions, notamment à la juridiction constitutionnelle, et c'est une absurdité que la Cour constitutionnelle exige le PV. Toutes ces questions-là doivent faire l'objet de la loi électorale, et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place dans ce que nous appelons la loi Lokondo, présentée notamment par le jeu 13.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ces numéros le professeur Jacques Joly. Il est ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, député national et co-auteur de la loi électorale qui devra être examinée dans les jours qui suivent. Alors, professeur Jacques Joly, déclinons un peu cette loi Lokondo dont vous êtes co-auteur. Dites-nous, en ce qui concerne la révision du fichier électoral, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans votre loi?
Le problème de l'enrôlement dans la loi ne se pose pas en termes spécifiques, c'est plutôt en termes de principe. Le principe, c'est l'exhaustivité de l'enrôlement, la transparence. La contestabilité, on doit savoir si on estime que ça ne s'est pas fait dans des conditions, comment contester. Donc aujourd'hui, il faut plutôt dégager ensemble les options. Donc nous devons éviter le glissement tout en maîtrisant les techniques, aussi bien au niveau de l'enrôlement. Nous avons de bases des données qui existent, comment on peut travailler en synergie, comme il a été dit, avec l'ONIP et l'Institut national des statistiques qui doit faire le renseignement général scientifique, l'ONIP qui doit faire les renseignements administratifs et nous qui devons faire, n'est-ce pas, l'enrôlement. Il faut donc les trois organisations, mais pas de manière isolée, administrative, mais en concertation avec toutes les forces politiques en présentant en réalité les contraintes, mais aussi que ces forces politiques soient de bonne foi parce que il y a aussi un manque de cohérence au sein des forces politiques. Lorsqu'on vous dit, attention, la loi organique, telle que votée, présente un certain nombre de difficultés et qu'il faut un peu discuter. Et vous acceptez la loi organique et lorsqu'on commence à la mettre en œuvre, vous vous rétractez. Ça, ce n'est pas des attitudes responsables. Si on avait le temps, on aurait pu même avoir une conférence électorale dans un délai très court, où tous les acteurs pourront se mettre d'accord sur les axes majeurs du processus électoral à venir.
Le mode du scrutin et la problématique des seuils électoraux a posé problème en 2018. On a vu beaucoup de contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle. Dites-nous, dans votre proposition de loi, comment avez-vous pensé le mode du scrutin pour les prochaines élections?
Il y a eu un grand débat. Est-ce qu'il fallait glisser vers le scrutin majoritaire? En tout cas, ce qui concerne la présidentielle, nous sommes tombés d'accord qu'il faut revenir sur le deux tours. Mais ça, c'est une option qui doit être prise au sein d'une révision constitutionnelle qui a été initiée par un de nos collègues, pour ne pas les citer, Délice Elsanga, mais la gestion de ces processus dépend, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Mais en ce qui concerne la loi Lokondo, l'option, c'est d'arriver, n'est-ce pas, à éviter à la fois de bloquer le système avec un seuil trop élevé, mais aussi de permettre à toutes les expressions de s'exprimer. En 2006, on a eu un seuil à 3%. Il y a des tendances qui veulent qu'on aille à un seuil beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que notre jeu politique est fragmenté entre des micro-partis monopersonnels qui ne permettent pas, n'est-ce pas, un jeu politique cohérent. L'option, c'est de clarifier le jeu là-dessus pour que on garde un seuil, mais un seuil qui peut amener à trouver de grands agrégats qui peuvent amener un jeu politique beaucoup plus clair. Voilà un peu le schéma. Il n'était pas question de tout bloquer, mais la tendance pour les uns, c'était tout simplement la suppression du seuil. Et c'est là où il faudra se prononcer. Est-ce qu'on supprime le seuil pour permettre à tous de venir, où on met un seuil, mais un seuil rationnel pour rationaliser le jeu politique.
La transparence du processus pose aussi problème, surtout la crédibilité des résultats qui seront publiés. On estime qu'avec l'expérience de 2018, le président de la CENI ou la CENI a un pouvoir excessif de proclamer la personne de son choix, même si cette victoire ne reflète pas la vérité des urnes. Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement pour que les résultats qui vont découler des urnes soient contraignants pour tout le monde, y compris pour le bureau de la CENI, même si le candidat qui est élu n'enchante pas tous les membres de la CENI?
La question de l'acceptation des résultats est liée à la transparence du jeu électoral. Cette transparence commence d'abord par la transparence de la cartographie de bureaux de vote. On doit savoir combien de bureaux de vote sont là. Et à partir de ce moment-là, les acteurs politiques doivent déployer leurs témoins. Les observateurs à long terme ou à court terme soient déployés, quel que soit là où ils sont. Alors, cette transparence va amener la maîtrise de la chaîne de résultats. C'est-à-dire, on doit voir les résultats bureau de vote par bureau de vote. On doit éviter l'argument selon lequel ce n'était pas prévu dans la loi. Ce sont de bonnes pratiques, mais s'il faut maintenant le socler dans la loi, il faut le faire. Ensuite, il faut qu'on puisse maîtriser l'ensemble des segments de transmission des résultats. Vous savez que lors de l'année processus, les centres de compilation, certains n'avaient pas travaillé, et que la CENI, dans la loi électorale, disait que on ne pouvait publier les résultats électroniques sans que les résultats manuels ne soient visibles. Mais il faut mettre le vote électronique dans la loi, clairement, mais aussi mettre en place les mécanismes de contrôle de ces votes électroniques, d'observabilité de résultats de vote électronique, de sorte que qu'on sache ce que le bureau des votes tel centre de vote a envoyé à la centrale et que qu'on ne nous vienne pas avec un PV soi-disant que le Centre national de traitement peut être considéré comme un centre de compilation générale. Non. Autre fait, on a remarqué que le juge électoral, qui a un rôle important, pratiquement était transformé en un dieu. Or, vous savez que même la Cour constitutionnelle doit recevoir le PV. Et nous, à notre loi électorale, nous voulons renverser la charge de la preuve. C'est à la CENI et surtout à la Cour qui est appelée à réformer ou à annuler de tirer dans le PV qu'il doit obligatoirement recevoir. Dire que voilà le PV et que le recomptage de voix ne devienne pas un mode aléatoire au gré, n'est-ce pas, bon vouloir du juge. Qu'on puisse préciser les conditions de son travail. Pourquoi il n'y a pas de conseiller référendaire? Pourquoi il n'y a pas de services beaucoup plus détaillés? Vous savez, dans d'autres pays, la justice constitutionnelle déploie ses propres agents dans le bureau de vote pour ramener ses preuves. Nous, on a pris l'option que c'est la CENI qui doit envoyer le PV. Mais il faut qu'on voit ces PV-là. Mais s'il n'y a pas de PV de la CENI au niveau de la Cour, eh bien la Cour doit avoir le courage d'annuler les résultats. Mais on l'a vu au Kenya, on l'a vu en Afrique australe, à Malawi, au Botswana. Donc, le juge doit s'assumer et non pas être un outil aux mains de pouvoir exécutif chargé, n'est-ce pas, de rendre des arrêts sur commande.
Dans l'opinion, l'idée de certification des résultats, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, est mise sur la table. Pensez-vous qu'il soit nécessaire que les observateurs électoraux puissent certifier les résultats de la CENI? Notamment, on parle de la certification de l'Union africaine, des Nations unies et des confessions religieuses, par exemple.
Mais tout ce que vous évoquez là, ce sont des mécanismes de méfiance. Nous plaidons pour la construction des mécanismes de confiance. Et les mécanismes de confiance, qu'on appelle en anglais le confidence building, ça s'est construit avec le pont entre tous les acteurs. C'est-à-dire, dès la phase préélectorale, la CENI doit savoir travailler avec ses parties prenantes ou ses partenaires. Il faut construire des partenariats qui puissent nous amener aussi bien la société civile et la CENI que les acteurs politiques, eux la CENI, mais surtout les observateurs. Vous savez qu'un observateur, c'est un acteur majeur des crédibilisations des élections. Mais comment on devient observateur? On s'est fait accréditer par l'organe de gestion. Donc, il y a des principes qui guident l'observation internationale. Un observateur international ou même national ne va pas publier ses résultats n'importe comment. Donc, il faut construire des partenariats, un code de bonne conduite, un cadre de concertation, de sorte que lorsque les observateurs ont terminé leur travail, avant de publier le travail, ils doivent présenter à la CENI, dire, monsieur, nous, nous avons 40 000 observateurs déployés sur vos 90 000 bureaux de vote. Voilà le résultat que nous avons. Qu'est-ce que vous en dites? Et la CENI fait ses remarques. Ils ne sont pas dans une guerre, non. Ils sont dans une vue transparente pour dire que nous avons les résultats. Il y a même des partis politiques qui doivent avoir leur propre centrale électorale pour savoir déjà que, voilà, nous nous avons perdu. Et appeler les autres pour dire, voilà, nous avons perdu. Donc, les élections exigent une certaine culture, pour ne pas dire une certaine civilisation de la vérité, parce que le fond ici, c'est quoi? Il s'agit de retrouver la volonté du peuple et déterminer ce ou celui que le peuple a réellement élu pour le conduire. Parce que s'il y a contestation, il y a fragilisation de la légitimité. Et s'il y a fragilisation de la légitimité, eh bien, il y a inefficacité et le pouvoir va perdre beaucoup de temps à aller chercher la légitimité extérieure ou aller chercher la légitimité intérieure et ça va ouvrir la voie à la corruption et à la mauvaise gouvernance. De bonnes élections donnent de bons dirigeants et les bons dirigeants donnent de bonnes institutions, les bonnes institutions donnent le développement.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ces numéros le professeur Jacques Joly, ancien vice-président de la CENI, député national et co-auteur de la loi électorale dite la loi Lokondo. Alors professeur, il y a aussi la question du financement des élections qui se pose. Est-ce que au niveau du Parlement, vous qui êtes l'autorité budgétaire, vous avez pris des précautions pour disponibiliser les moyens conséquents à la CENI pour la tenue des élections?
Mais sur ce point, je crois que le gouvernement a donné des garanties, mais j'espère que ces garanties seront encore affirmées lors de la défense du budget. Nous, au niveau du G13, nous avons proposé l'option d'une dotation budgétaire multiannuelle pour éviter que le coût des élections qui avoisine pratiquement les milliards. Et si vous savez que nous avons un budget qui dépasse difficilement le 5 milliards, cette fois on nous promet c'est 10 milliards, mais même si nous avons 10 milliards, mais 1 milliard c'est énorme, c'est un dixième du budget national qu'on crée aux élections. Donc il est important que ces budgets soient répartis sur plusieurs années budgétaires, d'autant plus que nous n'avons jamais appliqué les systèmes de budget pluriannuel programmatique. Donc, avec la rationalisation, l'identification des électeurs entre les recensements général scientifiques et l'identification nationale, il y a possibilité, n'est-ce pas, de mutualiser les ressources pour déjà réduire le coût à ces niveaux. Vous savez déjà que l'enrôlement prend très souvent 400-600 millions de dollars. Si on peut déjà régler ces questions-là, ça va déjà nous aider. Alors, les autres opérations électorales, c'est vrai que le temps est court, mais nous devons travailler de manière transparente. Et s'il faut recourir, puisque les partenaires internationaux ont dit qu'ils peuvent nous porter leurs apports sans éroder notre souveraineté, ben, nous devons y aller. C'est vrai que nous avons déjà atteint le stade de la souveraineté électorale. Nous avons pu organiser nous-mêmes les élections. Nous pouvons le faire. Les signes de croissance économique sont encourageants. Donc, nous pouvons y arriver. Et j'espère que c'est la première des tâches à laquelle va s'atteler l'équipe du président Denis Kadima, c'est-à-dire de faire le choix et de présenter un budget électoral rationnel.
Et pensez-vous commencer avec les élections locales qui sont toujours sacrifiées ou vous êtes toujours dans la logique de privilégier les élections nationales et provinciales?
Bon, en ce qui concerne les élections locales, c'est une nécessité. On ne peut pas avoir une démocratie qui n'est pas soclée à la base. Mais il est important que lors de discussions, et nous avons posé ces problèmes lors de consultations nationales, qu'on discute sur la rationalité de notre système de décentralisation. Si on doit organiser 11 scrutins et que au niveau local, il faut organiser l'élection des conseillers de secteur et des chefferies, les élections de membres de comités exécutifs de secteur et des chefferies, les élections urbaines, municipales et puis le reste, on se rend compte que c'est une impossibilité pratique. Si on prend simplement le nombre de groupements, on arrive à plus ou moins 9700 groupements. Si on prend les communes et les villes qui ont été fabriquées, il y a même des notions assez absurdes telles que la commune rurale et surtout la saisie physique de ces entités qui n'ont pas été administrées, on n'arrive pas. C'est comme ça que nous avons dit qu'il fallait revoir le schéma de notre décentralisation pour qu'on arrive plutôt à voir la décentralisation au niveau territorial. Donc avec 145 territoires, quelques 97 villes, des communes urbaines, nous pouvons arriver à un nombre plus ou moins rationnel de cadres à élire et à prendre en charge. Vous savez déjà qu'avec le 26 provinces, les assemblées provinciales cumulent de retard de paiement. Les ministres provinciaux dans certaines provinces se promènent à pied ou sont transportés à moto avec leur garde du corps avec une arme derrière. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Il y a des provinces à budget zéro. Donc, la dimension financière et fiscale de la décentralisation doit être prise en compte. Et c'est surtout ces débats-là qu'il faut voir. C'est dommage que dans notre processus électoral, les débats soient focalisés sur les individus, mais qu'on ne discute pas sur la rationalité de notre système électoral et le mode d'accès au pouvoir de manière technique.
La toute dernière question, professeur. Vous avez des propositions assez séduisantes pour rendre crédible et transparent ces processus électoraux, mais seulement, est-ce qu'il y a la volonté politique au niveau du Parlement et même du gouvernement pour qu'il se tienne en 2023 des élections réellement crédible, démocratique et transparente. Puisque si il n'y a pas cette volonté politique, toutes vos intentions sont peine perdue.
Oui, vous avez raison. La volonté politique est la locomotive d'un processus électoral. On ne peut pas avoir une démocratie sans démocrate. Et nous, au niveau où nous avons travaillé, au niveau du G13, nous nous félicitons d'abord de l'appui que nous avons obtenu du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que si lui n'avait pas accepté de nous rencontrer, nous n'aurions pas été l'intercelle qui a amené aux consultations et finalement à la dynamique qui a produit l'Union sacrée. Nous sommes un peu aussi géniteurs de ce processus. Mais vous savez déjà, à cette époque, il y a de forces politiques qui ont refusé de nous recevoir. Et j'espère que maintenant que chacun fait l'expérience de l'alternance, nous sentons la nécessité de partager ensemble une même vision de la reconstruction de la nation à travers de bonnes élections. Regardez tous les conflits qu'il y a en Afrique. C'est très souvent des conflits nés de mauvaises organisations des élections. Quelqu'un peut croire qu'il a révisé la constitution au forceps, qu'il a imposé telle institution par la force du nombre, mais les résultats postérieurs peuvent être déstabilisants pour l'ensemble de la nation. Et vous avez vu, si on parle là d'un coup d'État, c'est seulement parce que quelqu'un n'a pas respecté les principes qui étaient conçus dans la Constitution. Il a cru qu'il était le plus fort. Mais en politique, le plus fort n'est pas tout le temps le plus fort. Et le faible n'est pas tout le temps le plus faible. Moi, je suis un enfant de Léon Kengo Adondo. Il me disait, j'ai été chef de pouvoir exécutif. Je commandais comme je voulais. J'ai été chef de pouvoir judiciaire. J'ordonnais. Mais le fait de passer au niveau du pouvoir législatif C'est une école d'humilité. La politique doit être une école d'humilité.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite sous la supervision de Alain Irung. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté. Je prends rendez-vous avec vous pour le prochain numéro, samedi prochain à 10h05. Merci de rester fidèles à Radio Okapi. Au revoir.